Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monnaie Libre. Eh bien, on va retrouver la première invitée de Monnaie Libre. C'est une femme, elle vient de Toulouse, c'est Carole Fabre. Salut Carole.
Salut Stéphane.
Ouais, alors t'étais la première invitée en fait du podcast. Le premier épisode, c'est avec toi, hein. T'étais au parti.
Oui.
Ouais. T'étais au parti pirate, je crois, à cette époque-là. Hein.
C'est ça, ouais.
Ouais. Alors, je reviens avec toi sur cet épisode parce que dernièrement, ton activité a été très fortement orientée revenu de base et plus particulièrement, disons, dividende universel, monnaie libre, puisque tu as participé ces derniers mois à plusieurs événements dont on va parler.
Oui.
Et où on aura des... des comptes rendus qui ont été réalisés, notamment des vidéos, des podcasts aussi. Voilà, beaucoup de contenu intéressant avec toi sur Toulouse. Alors, on va commencer dans cette première partie à parler de deux événements auxquels tu as participé en novembre et décembre dernier. C'est d'abord le Capitole du Libre, et puis après, on parlera des Freedom Money Meeting édition numéro 4. Mais d'abord, le Capitole du Libre. Alors, qu'est-ce que le Capitole du Libre d'abord?
Alors le Capitole du Libre, c'est un événement qui a lieu à Toulouse tous les ans depuis plusieurs années maintenant, qui est sur les enjeux du libre, les logiciels libres et tous les enjeux du libre, organisé par Tout Libre sur Toulouse. Voilà, c'est les RMML en réduit. Voilà.
Voilà, c'est comme les RMLS, c'est-à-dire les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre qui sont annuelles et qui ont chaque année dans des villes différentes. Et là, le Capitole du Libre, forcément, le Capitole, c'est connu à Toulouse, hein, c'est la place du Capitole, hein, c'est ça?
Oui, alors ça se passe pas à Place du Capitole, c'est à l'Insight, c'est une école qui prête les locaux.
Oui.
Voilà, une école d'ingénieurs, et qui prête les locaux pour 3 jours chaque fois.
D'accord, mais le nom est toulousain, c'est-à-dire le Capitole,
oui, sûr, le
ça
Capitole.
Fait référence à Toulouse. D'accord. Et alors, donc cet événement informatique, libriste, hein, donc pour les logiciels libres, etc., pour l'instant, n'avait pas vraiment encore parlé de monnaie libre, alors pas trop.
Et non, jamais.
Hein. Jamais, hein. Donc
non, ça n'avait pas été abordé, ni dans les ateliers, ni après dans les. Parce qu'il y a des conférences dans les enjeux du libre, et puis plein d'ateliers, de formations, etc. Voilà, donc c'était une première, oui.
Alors tu vas nous rappeler pour les auditeurs, mais les auditeurs de Monnaie Libre le savent, ce qu'est une monnaie libre, puisque là tu en parlais en tant que monnaie libre au sens de la TRM, c'est-à-dire de monnaie véritablement. Coproduite par les membres, c'est-à-dire c'est ça. Hein.
Voilà.
Et alors comment c'était cette conférence en gros? Alors les auditeurs pourront la voir en complet, mais comment ça s'est passé? Comment t'es venue cette idée? C'est toi qui leur a proposé?
Voilà, c'est moi. Donc ils ont fait un appel à conférence. Je veux dire comme c'est suite aux universités d'été, tu sais où tu es venu, la Périgueux.
Mm-hmm.
Et quand j'ai entendu ta con, ça m'a reboosté quoi sur ça. Ça fait longtemps qu'on se connaît, hein. Et que je m'intéresse à la TRM et aux monnaies libres. Mais là, ça m'a reboosté. Et donc dès début septembre, j'ai vu l'appel. J'ai dit allez hop, je propose.
D'accord.
Une conférence sur ça.
Et alors, tu as abordé quel thème dans cette conférence? Qu'est-ce que tu as essayé de leur démontrer dans cette conférence?
Alors, je l'ai partagé en deux. Donc, un thème qui est indispensable, c'est déjà comprendre l'architecture de la création monétaire actuelle. Mmh. Peu de gens savent, hélas, encore. Donc, j'ai trouvé que c'était indispensable de d'abord montrer comment la monnaie fonctionne aujourd'hui, l'euro, hein, et comment c'était des monnaies, finalement, privatrices de liberté. Mmh. Voilà. Et de là, enchaîner sur les crypto-monnaies et sur les monnaies libres, type Monnaie M, OpenSSD, YouCoin.
Voilà. D'accord. Et alors, je crois que tu as aussi fait référence au P2P manifesto d'Olivier Aubert.
Oui, exactement. Et oui, chaque fois, je trouve ça très pertinent d'interroger la légitimité, chaque fois. Légitimité du réseau, que ce soit un réseau de conversation ou un réseau, finalement, d'échanges monétaires, la légitimité, voilà, toujours interroger, est-ce que c'est vraiment légitime, est-ce qu'on est tous chaque fois souverains, quoi, individuellement.
Voilà. Ouais, on va rappeler un peu là le travail d'Olivier Aubert qui analyse d'un point de vue un peu d'artiste mais aussi d'ingénieur, puisqu'il a la double qualification, on pourrait dire, au sens où il a pratiqué ces deux activités. Et qui en fait un peu a généralisé un petit peu, on pourrait dire, le principe des quatre libertés logicielles de Richard Stallman ou les quatre libertés économiques pour la TRM ou aussi les principes du P2P, etc. Et qui en a fait règles de ce qu'il appelle légitimité du code, selon une certaine perception, voilà, de la structure que l'on peut avoir, voilà, de savoir différencier est-ce que tel ou tel système, disons, qui vous propose de participer, répond à certaines légitimités concernant les membres qui vont l'utiliser, notamment est-ce que les créateurs auront les mêmes droits que ceux qui vont y entrer. Et il a ajouté une dimension temporelle à sa dernière version, un petit peu. Donc c'est un critère qui est peut-être un peu plus général, puisqu'on va pouvoir l'appliquer à tout type de système connu ou inconnu. C'est-à-dire que voilà, c'est assez profond en fait. Voilà.
Oui.
D'ailleurs, à noter que plus un principe fondamental ou axiomatique est profond, moins il comporte d'axiomes en fait. En général, il y en a très peu. C'est-à-dire, parce que plus on met d'axiomes, forcément, plus on met de fondements. Plus on restreint l'univers décrit par ses fondements, parce que ça fait plus de contraintes, donc c'est plus difficile de les tenir. Hein. Voilà, et plus c'est profond, plus c'est général, et moins il doit y avoir de règles au départ. Alors, ça c'est un principe général, hein, qui est valable.
Oui, mais là, il y a trois critères très simples, là. Voilà. C'est très pertinent, je trouve.
Alors, comment ça s'est passé cette conférence? Je crois que tu avais une salle assez pleine.
Hein, ah oui, ouais. Pleine, vraiment, très bien. Alors, des petits soucis techniques qui m'ont fait un peu perdre de temps, donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais après, ça s'est fini par 3 heures de conversation dehors avec tous les gens qui avaient envie de continuer à débattre. Voilà. Parce qu'on n'a pas pu avoir le débat dans la salle parce que quelqu'un suivait, ça s'est fait dehors. Voilà. Et c'était passionnant.
D'accord. Et après la conférence, alors, c'était quoi comme type d'échange? Comment ça s'est passé?
Bon, il y avait des personnes qui étaient déjà très averties sur les types de monnaies, type Bitcoin, Litecoin, Ether, etc.
Ouais.
Et qui ne connaissaient pas les monnaies libres. Donc, ça, c'est une grande ouverture. Moi aussi, il y avait des choses que je n'avais pas très bien compris sur certaines monnaies. Donc, on a pu aller loin pour aussi décortiquer un peu le Faircoin, toutes ces nouvelles monnaies.
Ouais.
Et ça, puis après des gens qui sont venus me parler encore de création monétaire, qui m'ont dit « Ah, enfin, j'ai compris, je n'avais pas pigé avant, voilà. » Donc on a parlé de ça, et principalement, création monétaire, et c'est mon livre. Alors, petit groupe, hein, 4, 5, 6, ça partait, ça venait, mais enfin, 3 heures à la suite, après quand même.
D'accord. Alors comme c'est un public plutôt informaticien ou proche de l'informatique, disons, ils ont percuté assez vite, en fait, là.
Oui, voilà. Alors ça soulage parce que dans d'autres débats, c'est toujours compliqué alors, d'expliquer et la monnaie, et le revenu de base, et ce qu'est la culture du libre. Alors, ça fait beaucoup pour des gens qui ne connaissent absolument pas ça. Alors là, déjà, j'avais la culture du libre, elle a été acquise dans le public.
Oui.
C'est pas mal.
Oui, déjà, la base était là. Et puis en plus, ce sont des intervenants ou des contributeurs de logiciels libres, donc ils savent déjà ce que c'est qu'un code logiciel.
Voilà.
Donc c'est plus facile pour eux de comprendre ce que c'est que la règle d'un jeu, ou même les lois physiques, ou les lois qui régissent les systèmes, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc ils peuvent mieux comprendre ce que signifie un algorithme ou un mécanisme, quel qu'il soit, c'est un peu plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais disons que quand ils ont un peu plus de facilité, et ce qui est jamais simple, hein. Il y a des systèmes extrêmement complexes, on peut toujours imaginer des choses de plus en plus complexes. Alors, oui. cette conférence, elle a été filmée, hein, et donc mise en ligne assez récemment, d'ailleurs.
Oui.
Et donc, sur le site du Capitole du Libre, et donc tu l'as rappelé sur ton blog. On va rappeler ton blog, on mettra un lien, d'ailleurs, qui s'appelle Règle du Jeu. Hein, Règle du Jeu.
Règle de Jeu.
Règle de Jeu, voilà, avec un S à règle, mais de Jeu. Oui. Règle de Jeu. .com, hein, c'est ça, non?
.com, oui.
Ouais, voilà. Donc, règledejeu.com qui reprend ces sujets-là. Alors, voilà. Donc, tu as fait cette première conférence. Hein, donc, c'est à voir. Hein, je vous assure que ça vaut le coup. C'est une belle conférence qu'a fait Carole, là, avec pas mal de slides et d'explications. Surtout que ça demande du temps de préparer une conférence, en plus. Hein, voilà, il vaut mieux. Donc, il y a du contenu à voir qui sera disponible. Je le mettrai dans un post spécial que j'indiquerai là aussi dans le podcast. Sur, voilà, je le mettrai un post où je compilerai les contenus là, qu'on balaye aujourd'hui avec Carole. Alors, ça, c'était Capitole du Livre. Alors, à noter qu'il y a eu un lien direct avec ce qui s'est passé après, puisque tu es venu aussi aux rencontres des monnaies libres. Les FMM4, Freedom Money Meeting ou Rencontre des Monnaies Libres, les 4e édition à Paris, et on a eu la surprise de voir arriver des nouveaux contributeurs qui ont découvert le sujet d'ailleurs lors de cette conférence, si j'ai bien compris.
Oui. Eh ben, y avait une personne de Toulouse là qui était venue, oui. Ouais. Qui était de passage à Toulouse. Voilà, pas de Toulouse.
Voilà, qui était de passage, ouais, et voilà, qui a découvert le principe. D'accord, lors de cette conférence. Mmh. Et alors CFMM4, comment tu les as vécu? Alors comment ça s'est passé?
Ah ben super, bon, déjà c'était la première fois que je jouais au jeu de la corbeille avec des Brunnerec, etc. Parce qu'on on l'avait déjà tenté à Toulouse avec dans un petit groupe comme ça informel. Et on n'avait pas très bien réussi, on n'avait pas bien compris toutes les règles, etc. Donc là, la première journée jeu de la corbeille, ça a été vraiment super. Hein. D'ailleurs, le compte-rendu que tu avais fait le montre. Ça m'a permis de rencontrer Sybille, que je ne connaissais pas aussi. Et voilà, et puis de rencontrer tous les passionnés de ces nouvelles monnaies aussi.
Oui, d'accord. Mmh. Et par rapport à cette rencontre et à ce jeu La Corbeille en particulier, est-ce que tu pourrais nous détailler un peu mieux comment tu as vécu cette journée ou comment aussi ceux qui sont venus avec toi l'ont vécu pour les auditeurs?
Déjà, hein. On s'est bien amusé. Ouais. Et puis, c'est très vraiment pédagogique ce jeu-là. On se rend compte tout de suite de la façon dont on se comporte. Quoi. C'est vraiment... on voit quoi, je sais pas, c'est quelque chose qu'on ressent, donc je trouve que par rapport, au lieu des fois d'expliquer comment marche la monnaie, démarrer par ça, c'est assez puissant. Voilà. Alors bon, moi je connaissais déjà comment est créée la monnaie actuellement, etc. Bon. Mais j'ai testé le crédit mutuel, là, que j'avais pas testé. Donc on voit aussi quelques blocages avec le crédit mutuel, où c'est tous retrouvés à moins 5 à la limite, quoi, à la fin du jeu. Et puis après, bon, le dividende universel, où là j'ai bien compris aussi les règles du jeu, parce que c'est pas toujours évident quand on l'a jamais fait de changer d'unité. Là. Mais après, une fois qu'on a pigé, là, c'est finalement simple. Voilà, et puis bon, on voit bien qu'avec le dividende universel, ça apaise énormément nos façons d'échanger, quoi. Ouais.
D'accord, et pour nos auditeurs là, qui nous écoutent, comment ça se passe concrètement le jeu à corbeille en fait ça...
Ah, tu veux. Alors le jeu de la corbeille, donc c'est un jeu qui permet de tester différents systèmes d'échange ou différents systèmes monétaires et de voir comment nous joueurs on se comporte dans nos échanges. Il s'agit donc de faire des carrés avec des cartes et soit si c'est dans le troc on s'échange des cartes, si c'est un crédit mutuel ben c'est des crédits débit avec la monnaie dette, ben, on a des billets et une banque qui joue le rôle central. Et en dividende universel, on a des unités. Voilà. Et tout. Alors là, on le simule donc sur 80 ans. Donc chaque tour qui dure 8 ans, on reçoit notre revenu de base, dividende universel à chaque fois. Quoi. Voilà.
D'accord. Donc c'est sur 80 ans. Et oui. Donc chaque tour, c'est-à-dire avant qu'on fasse un petit bilan, voir, je crois que c'est ça, il y a des naissances et des morts. Hein.
Ah oui, alors ça, c'est sympa, je trouve, dans le jeu, oui, parce que voilà, on part tous à des âges différents. Donc on part sur une espérance de vie de 80 ans, et ceux qui approchent, ben, ils vont jouer un tour, ils meurent, mais ils renaissent. Voilà. Donc ils continuent à participer et à rejouer en tant que nouveau-né, voilà, qui arrive dans la communauté.
D'accord, donc chaque tour fait 8 ans, ça fait 10 tours, donc il vaut mieux être au moins 10, disons, pour que ça soit bien. On peut être moins,
c'est moi, moins... Moi, je pense qu'il vaut mieux être au moins 10, oui.
Ouais, vaut mieux être au moins 10.
Après, j'ai bien vu, oui, donc plus on est, plus c'est sympa, effectivement.
Oui, alors plus on est, bien sûr, et plus on peut voir des problèmes apparaître, parce que quand on n'est pas nombreux, on trouve toujours des solutions, et puis dès qu'on est nombreux, ça devient plus compliqué.
Oui.
Bien sûr, et on peut voir, notamment, ce qu'on peut noter des assèchements monétaires, alors parfois des endroits où... les individus n'ont plus de quoi échanger, ils ne sont plus en facilité d'échange. Et puis parfois c'est dans le temps, c'est-à-dire il y a des périodes où c'est tout le monde qui se bloque un peu. Et il y a des périodes à l'inverse, qui peut y avoir des périodes d'euphorie aussi, ou de surplus. Voilà. Donc on peut avoir ça. Et puis alors après on fait un tableau. Alors ça c'est important, je crois que tu l'as bien fait d'ailleurs. Hein. Et les auditeurs qui veulent s'intéresser à ce sujet-là devraient aussi aller voir ton blog, hein, règlesdujeu.com. Et pas seulement, il y a eu d'autres comptes rendus ailleurs, mais sur le tien là, les derniers comptes rendus sont très bien faits, en particulier puisque tu as repris les données au tour par tour, les données notamment des morts, ceux qui sortaient du jeu, ont fait un peu un bilan de ce qu'ils ont produit, puis ils repartent dans le jeu en tant que nouveau-né, et à la fin du jeu aussi on fait un bilan pour tout le monde, Ce qui fait que, après, sur l'ensemble des 10 tours, on peut voir ce que chacun a pu produire lors de sa première ou de sa seconde vie. Parce qu'en général, tout le monde vit deux vies, là, hein, du coup. avant la première mort et après. Alors, et donc, on compile ça sur un tableau, hein, en fait. Hein, ça, c'est bien pratique pour pouvoir ensuite travailler les données. Hein, on est d'accord.
Ça, c'est un des joueurs qui a tout mis dans un tableur, là, Nicolas Porta.
D'accord. Voilà. Et alors, explique-nous comment les joueurs... alors FMM4, comment les joueurs ont, les autres joueurs ont vécu ce jeu? Est-ce que tu as pu noter des réactions particulières ou...
Le sentiment qu'on retrouve partout, c'est une espèce de l'apaisement, voilà. Dès qu'on joue avec le dividende universel, il y a une tranquillité, un apaisement, on ne se sent plus poussé. Et même certains m'ont dit, parce que j'ai refait le jeu de la corbeille récemment, là, à Die, hein, mais sur un échelon de temps plus réduit, à 50-60 ans. Certains m'ont dit, oui, mais si c'est, ça s'appelle, c'est parce que c'est là, en fin de journée. Est-ce que si on jouait le dividende universel avant le système monnaie dette, est-ce que c'est pas la fatigue qui fait qu'on s'apaise et non pas le jeu? Et non, puisque à Toulouse, on a testé le troc le matin. Et dans le troc, ça a été assez cool finalement. Et c'est vraiment l'excitation et la compétition monte vraiment avec la simulation de la monnaie dette.
Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. La dette crée un stress par sa structure même, en fait. Hein, c'est
exact.
Ça. Ouais, d'accord.
C'est très clair.
Mais alors que les autres systèmes permettent aussi de créer des valeurs économiques. Hein. C'est pas.
Ah oui.
C'est voilà. Donc, oui. Le stress n'est pas nécessaire apparemment.
Ah non. Absolument pas.
D'accord. Alors est-ce que tu peux nous dire d'autres choses sur ces FMM4? Est-ce que comment ça?
Ah ben oui. Le lendemain, donc, on a plus parlé comment on pouvait contribuer en tant que non développeur.
Ouais. Hein.
Donc, faire connaître, écrire des articles de blog, relayer l'information, voilà. Et puis après, on a fait des petites simulations aussi, ça j'ai bien aimé. Des simulations sur plusieurs années, etc. Comment on pourra utiliser le système, quoi, pour faire nos échanges. Alors, c'est allé plus loin avec Qtcoin maintenant. Hein.
Oui, alors on va en parler en deuxième partie, on va s'en réserver un peu. Parce que
voilà,
sinon,
on en parlera plus tard.
Voilà, on va en parler.
Voilà, et puis c'était sympa de rencontrer Cédric Moreau, Jiba, etc. Quoi.
Ouais. Personne, les développeurs, quoi.
Les développeurs, ouais.
Qui parlent pas, mais qui font. C'est-à-dire que
pendant
qu'on s'agit devant les micros, il y en a qui travaillent, en fait. Hein, on est d'accord.
Donc, qu'ils sont là,
ouais. Ouais. Alors, ils font partie de tout, justement, ces producteurs de valeurs économiques. On pourrait remonter à Richard Stallman pour la partie informatique, mais ça peut être vrai dans la musique, ça peut être vrai dans des domaines qu'on ne connaît pas, bien sûr. Tous ces gens qui font en fait beaucoup pour l'économie, mais qu'on ne voit pas. Voilà. Et qui parfois, même le plus souvent, sont ceux qui créent le plus de valeurs économiques et qui n'apparaissent pas du tout en termes monétaires, qui ne sont pas rémunérés, qui n'ont pas de pouvoir d'échange pour ce qu'ils apportent, mais qui permettent à des bénéficiaires ultérieurs, souvent ça se fait des années après, de pouvoir produire des valeurs économiques qui, elles, se monétisent, voilà, sans qu'elles aient pu monétiser leur créateur. Souvent, ça se fait dans ce sens-là, et c'est là qu'une monnaie libre permettrait de donner une valeur minimale à toute production humaine.
À toute production humaine, oui.
Où que l'homme soit, voilà, qui participe de cette monnaie. Alors après, bien sûr, monnaie libre ne s'impose pas, c'est-à-dire qu'évidemment, ceux qui n'en veulent pas devraient pouvoir continuer à utiliser la monnaie de leur choix. Et ceux qui veulent utiliser une monnaie libre, utilisent une monnaie libre. Voilà, donc à partir de là, chacun peut tout à fait être libre du choix qu'il fait de son système monétaire et donc de la mesure de ses valeurs économiques, puisque forcément, ça va impacter la mesure. Alors, les FMM4, qui a noté que donc elles avaient lieu en novembre, les prochaines auront lieu en juin, parce qu'il y en a à peu près deux par an, en fait. Hein.
Oui.
Donc ça aura lieu début juin, la date n'est pas encore définitivement arrêtée, mais ça va pas tarder, d'ici une dizaine de jours maximum, une semaine sans doute même, eh bien ça sera annoncé pour les FMM5 cette fois, donc avec des progrès, parce que, comme tu le disais, on en parlera hein, ensuite, eh bien, ça avance bien, puisque ça y est, maintenant, les systèmes monétaires P2P de dividendes universels fonctionnent. Hein, alors ce sont des versions encore jeunes, hein, mais qui déjà fonctionnent très bien. Et même le premier client graphique a vu le jour avec Qtcoin. On en a parlé dans Monnaie Libre numéro 55 que je vous invite à écouter. Voilà, et vous pouvez découvrir déjà Qtcoin qui d'ailleurs depuis l'émission a déjà passé une version suivante et ça continue d'évoluer avec des programmeurs de grand talent. Voilà, donc c'est passionnant à suivre, c'est passionnant aussi à tester. Et on y reviendra. On va
D'accord,
garder
on y
la
revient.
laine pour ça, on va garder voilà, le public en haleine.
Okay.
Pour continuer, on va passer pas mal de temps aussi là-dessus, parce que je crois que c'est un sujet intéressant qui va intéresser nos auditeurs. On va le faire en deux parties, on fera une pause, là, une pause musicale hein, au milieu. Mais on va parler aussi de. Alors, donc tu as enchaîné hein, vraiment, parce que Capitole du Libre, FMM4, hein, où tu étais là, tu as été très active aussi. Et puis on reviendra après en deuxième partie, puisque non seulement tu as joué à la corbeille à ce niveau-là, mais depuis tu as fait beaucoup d'expériences, on va en reparler. Mais tu as fait entre-temps aussi une autre action remarquable, hein, c'est super Carole, hein, avec la cape rouge et le poing en avant, puisque tu as participé à un débat, alors bon, je ne sais pas si le terme débat convient, mais tu vas nous le dire, sur revenus de base et salaire à vie. Hein.
Voilà. Avec Bernard Friot.
Alors explique hein, en détail, parce que les auditeurs nous écoutent, ils ne connaissent pas du tout. Alors je mettrai aussi un lien, enfin il y aura un post sur créationmonétaire.info reprenant à la fois ce Monnaie Libre et tous les éléments qu'on a dit là. Ta vidéo Capitole du Libre, les comptes rendus Corbeil aussi que tu as fait, et puis le podcast aussi qui a été fait pour ce débat ou présentation, conférence. Voilà. Alors, explique-nous en détail, c'était où, c'était quand, comment, pourquoi et comment ça s'est passé.
Alors, donc, c'était le 15 janvier, là, dernier. Donc, c'est une association sur Toulouse qui s'appelle Avanti Popolo, qui produit des docs, vidéos, etc., qui a eu envie d'organiser ce débat, sachant que Bernard Friot venait cette semaine-là à Toulouse. Parce que le salaire à vie de Bernard Friot est connu d'un milieu gauche, du milieu du spectacle aussi, parce qu'il a... On en parle beaucoup dans les, comment ça s'appelle, les CIP, là, les intermittents du spectacle, qui se sont beaucoup réunis l'année dernière parce qu'on devait leur couper leurs droits. Et donc Bernard Friot et tous ceux qui suivent le réseau Salariat, il a un réseau qui s'appelle le réseau Salariat, voilà, sont beaucoup intervenus dans ces réunions-là. Et donc cette association qui fait des docs, des vidéos, donc qui est aussi l'intermittent du spectacle, avait envie de comprendre les différences, quoi. Et les convergences. C'était ça leur but. Voilà, donc ben, il fallait que je présente, on avait 20 minutes chacun pour présenter. Alors moi, le revenu de base et lui, le salaire à vie. Bon, pour le revenu de base, il n'y a pas un revenu de base, tu sais bien. Il y en a une multitude de propositions, même si on se réunit sur les points centraux qui sont individuels de la naissance à la mort sans aucune condition. Après, il y a des revenus de base en financement et d'autres en création monétaire et d'autres qui vont jusqu'à aux monnaies libres issues de la TRM. Voilà. Donc, j'ai quand même présenté toutes ces versions en m'attardant pas trop sur le financement, justement parce que je voulais aller plus loin et parler de création monétaire et bien montrer qu'on était dans une monnaie piège. Voilà, donc c'était pas évident parce qu'après... il fallait qu'on se réponde l'un l'autre et la salle connaissait plus le salaire à vie que le revenu de base. Donc voilà, c'était pas évident. Moi, je pense que je me suis un peu loupée sur l'aspect bien expliquer justement le dividende universel. Finalement, je suis restée beaucoup axée sur l'axe de la liberté où pour moi le salaire à vie est un truc liberticide au plus haut point. Et donc voilà, je voulais le voir chaque fois jusqu'au bout, me dire mais là ça c'est pas libre. Voilà. Je suis allée comme ça avec lui. Alors bon, M. Friot s'est très bien parlé, hein, évidemment. Il a l'habitude, il a de la bouteille à ce niveau-là, et il est resté bien centré sur son idée de salaire à vie. Alors, je l'ai poussé quand même pas mal pour arriver à lui faire dire quand même qui c'est nous, qui c'est on. Parce que chaque nous, on, il disait toujours nous, on va faire, on, mais qui, on, comment pour arriver à ce qu'ils disent quand même, oui, par les grèves, les manifestations, les syndicats, on va exproprier tout le monde. Alors lui, tous ceux qui sont pas d'accord avec son système, eh ben, ils se barrent. Voilà, ils partent de France, il n'y a pas le choix. Voilà, jusqu'à peut-être aller couper les têtes, quoi. Donc moi, j'ai essayé de lui opposer une version, enfin, une voix pacifique. Voilà.
Oui, alors,
après, je sais pas, toi, je sais que tu l'as écouté, donc vas-y, donne aussi toi.
Oui, oui, non, mais si, moi, je pense que, alors, si on connaît, si on connaît bien le sujet, en particulier celui de la monnaie, mais aussi si on connaît le sujet du revenu de base et le sujet du salaire à vie, que forcément j'ai étudié, hein, je crois qu'en fait, non, il y a des enseignements à tirer. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que, alors, sur ta présentation, c'est vrai que ça peut paraître un peu confus parce que, comme tu connais très bien le sujet, tu as abordé plein de façons d'expliquer le revenu de base qui sont toutes forcément un peu différentes, mais qui répondent toutes à des idées cohérentes, en fait. Par exemple, la proposition, moi je n'aime pas parler de proposition, l'analyse théorique de Marc de Basquiat, elle est extrêmement correcte, hein. Il faut être tout à fait rigoureux. Elle rejoint d'ailleurs celle du major Douglas, hein. D'ailleurs, faut pas croire qu'il n'y a pas de convergence là-dessus. D'ailleurs, Douglas était aussi un ingénieur, hein. Donc c'est normal, ça tient la route dans le système d'aide tel qu'il est. Mais la problématique que met en avant la TRM, c'est la nature de la monnaie. C'est-à-dire que c'est une réflexion sur la nature de la monnaie. Et quand on a en tête le principe de relativité, en fait, on comprend les arguments de Bernard Friot, qui n'a pas tort sur une partie, mais qui, au sens de la TRM, va se tromper dans les conséquences. C'est-à-dire qu'il comprend très bien que la production de valeur par l'être humain est quelque chose d'inconditionnel et non négociable. Et qu'effectivement, ça ne peut pas être décidé par d'autres êtres humains, pour faire simple. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas d'autres êtres humains qui peuvent dire tel autre être humain crée de la valeur ou n'en crée pas. Parce que la valeur est relative. Ça, c'est le principe de relativité, c'est assez simple. Si je change de référentiel, je ne vois pas le monde de la même façon, pour faire simple. Il faut rentrer dans les détails, mais je ne vais pas refaire des démonstrations théoriques là-dessus. J'en ai fait déjà pas mal. Il y en a d'autres d'ailleurs qui vont paraître bientôt, d'autres vidéos que j'ai faites récemment. Enfin, peu importe, c'est pas.
Oui.
Il faut analyser ça en détail, mais disons qu'effectivement, il va comprendre l'inconditionnalité, mais il va essayer de la rattacher une conditionnalité à autre chose. C'est-à-dire pas l'homme, mais la qualification de l'homme. C'est-à-dire qu'il va presque au bout, sauf qu'il s'arrête à la qualification de l'homme. Mais ça aussi, c'est un concept relatif. C'est ça le problème. La problématique, c'est de comprendre qu'en fait, on peut dépasser la relativité, constater des choses, en essayant de trouver quelque chose de plus profond. Hein, c'est-à-dire que quand je vois des vitesses différentes en changeant de référentiel, qu'est-ce qui est plus profond que d'avoir des vitesses différentes? C'est de dire l'espace ne change pas, le temps ne change pas, et la loi de transformation pour passer du train sur le quai ou du quai sur le train, elle est déterminée par la loi de Galilée. Voilà, ça c'est le premier pas. Le pas suivant, c'est de se rendre compte que même l'espace et le temps sont relatifs. Et là, on rentre chez Einstein, etc. Et la relativité, c'est plus Hooke, parce que voilà. Et notamment, en fait, essentiellement, dans les deux approches, quel que soit le niveau de profondeur qu'on a, le principe essentiel, c'est l'invariant. Qu'est-ce qui ne varie pas, en fait? Il y a peu de choses, justement, qui ne varient pas. Très peu. S'il y en avait plus, plus il y a de choses qui ne varient pas, encore une fois, ça nous ramènerait à un problème d'axiome, etc. Plus il y a de choses qui faudrait être fondamentales, c'est-à-dire ne changeant pas, étant immuables, etc., plus ça contraindrait et moins la liberté serait grande. En relativité physique, il n'y a que la lumière qui ne change pas. Dans le système monétaire tel qu'il existe, il n'y a pas d'invariant monétaire. Mais il y a un invariant dans les économies, c'est l'homme. Voilà. Si on enlève l'homme de toute économie, il n'y a plus d'économie. C'est ce qui démontre l'invariance de cette essence même de toute chose. L'économie est un élément humain, donc là où il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'économie. C'est pas plus difficile à comprendre que ça.
Pour l'histoire, c'est pareil.
Voilà. Et donc la mesure. Et voilà. Donc si on veut une unité de mesure commune entre les hommes, sa base de production ne peut être que l'homme. Mais l'homme pris comme invariant, pas comme qualification de l'homme. La qualification de l'homme, elle, c'est pas un invariant. Non. Je peux avoir une zone économique où il n'y a pas de qualification, j'aurai quand même une économie. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Alors c'est l'air qui va. Il a à peu près compris ça et il s'énerve. Parce qu'il comprend très bien, et je comprends très bien son énervement, je le cautionne, mais il reste bloqué là-dessus. Il comprend très bien que ceux qui ont le pouvoir de création monétaire sont ceux qui aujourd'hui décident de qui crée de la valeur ou pas.
Ouais.
Et ils veulent inciter les autres hommes à prendre des emplois qu'ils dénoncent, effectivement, parce que mettre les hommes dans des emplois, c'est les mettre dans des cases. Mais des cases définies par qui? Ben, par ceux qui ont le pouvoir, justement, de créer la monnaie qui va être déversée dans ces cases-là. Donc, il le dénonce très bien, ça. Mais,
oui, mais après, c'est pour refaire la même chose.
Et après, c'est pour... Voilà. C'est-à-dire qu'après, il veut refaire la même chose, mais plutôt que ce soit ces hommes-là qui décident qui sera dans telle ou telle case, ça sera d'autres hommes en fait. Donc il fait que remplacer.
Il recrée des cases.
Voilà, il recrée des cases. C'est-à-dire qu'il fait que remplacer en quelque sorte la décision arbitraire de la valeur par les banquiers par la décision arbitraire du comité de qualification. En clair, hein, pour faire simple. Voilà. Et alors que le principe de relativité va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on va dire non, on va définir une monnaie dont la production est invariante.
Ouais.
Parce que le problème aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'économie, quel est le rôle de la monnaie ? Le rôle de la monnaie, c'est bien entendu d'avoir une valeur intermédiaire d'échange. Mais ça ne veut pas dire une valeur qui ne se crée pas. Les valeurs économiques se créent toutes. Je veux dire, même prenons quelque chose qui paraît à peu près intangible, prenons l'or, typiquement, hein, même si c'est un truc délicat, l'or, etc. Mais l'or, ça continue à se produire, en quelque sorte, on en extrait, on le purifie et on continue à produire des pièces ou des lingots. Voilà, donc on en produit peu, mais on en produit. Voilà, donc ça veut, et on sait bien que l'or a de la valeur économique. La théorème ne nie pas que l'or a de la valeur économique, mais cette valeur économique n'est pas invariante. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas l'homme qui en est le gage, alors que l'homme est gage de toute valeur économique, que ce soit de l'or ou autre chose. Donc, voilà, et donc il... Et je pense que la problématique qu'il faut mettre en évidence pour bien comprendre le point théorique central qui va différencier la TRM à la fois des idées constructivistes concernant le revenu de base et ou les idées de type inconditionnalité mais sur autre chose que l'inconditionnalité bancaire, l'inconditionnalité qualificative par exemple, c'est de dire c'est la production de la monnaie qui accompagne la vie, la naissance, la vie et la mort de chaque être humain. Voilà. Et à partir de là, on a ce que Yolande Bresson appelait fort justement la valeur temps, parce que c'est bien la valeur du temps humain, la valeur du temps de vie humaine, c'est la valeur d'échange uniquement, c'est pas toute la valeur, c'est pas l'homme n'est pas réduit à ça, bien sûr, l'homme c'est beaucoup plus. La monnaie n'est qu'une petite part, c'est une petite part qui permet des échanges économiques. Mais l'homme, il ne fait pas que ça, il fait bien autre chose. Là aussi, il faut éviter, encore une fois, de remettre ça dans des boîtes. Voilà. Mais voilà, donc, je veux dire que le point, voilà, c'est principe de relativité. Il le comprend quelque part, il le dit assez bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à décider pour nous si on crée de la valeur ou pas.
Mais si... Alors après, il est très influencé, évidemment, par le communisme et le marxisme. Hein.
Oui.
Chaque fois que j'ai parlé avec des gens imprégnés de communisme et de marxisme, ils ont beaucoup de mal à ne serait-ce qu'à percevoir une liberté possible, quoi. Ils ont des projets, ben, justement, très constructivistes, mais alors, tout est ficelé d'avance, quoi. Voilà. Il n'y a plus de traces d'inconnu, pratiquement, quoi. Tout est pesé, mesuré, il n'y a plus de place pour ne serait-ce qu'une minute d'inconnu, quoi.
Oui, alors que l'inconnu...
Ils ont très peur de ça, quoi. Ils ont très peur de la liberté humaine.
Oui, mais alors que l'inconnu est la base même de la logique. C'est-à-dire que sans la possibilité de trouver, je dirais, de nouvelles vérités, de nouveaux théorèmes, de nouvelles conclusions, voire de nouveaux modèles, par exemple mathématiques, hein, pour parler de logique, ben, simplement, il n'y a pas de mathématiques, en fait. Et donc, ça fait... D'ailleurs, il y a des théorèmes qui démontrent ça. C'est ce que ça s'appelle le théorème d'incomplétude de Gödel.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a toujours, dans tout système logique, même quand dans la logique la plus rigoureuse, donc on peut imaginer même dans les logiques qui le sont moins, même dans la logique la plus rigoureuse, par exemple celle qui repose sur les nombres entiers, il faut savoir qu'on a démontré mathématiquement qu'on ne pouvait pas tout démontrer. Voilà, on a démontré qu'il y avait de l'indémontrable, si vous voulez. Ça paraît surprenant, mais ça s'appelle aussi le raisonnement par l'absurde, si vous voulez, d'un point de vue plus profane, pour faire simple. Voilà, bon, on peut creuser ce sujet-là après en profondeur, je ne vais pas le faire là, parce que ce n'est pas le sujet. Mais...
Moi, je trouve ça passionnant. Alors, après, là, on entre dans des trucs plus philosophiques. Bon.
Oui. Oui, mais enfin, il y a ça à la racine. Hein. On voit bien qu'il y a de la philosophie à la racine, mais comment on peut aujourd'hui, en 2015, faire de la philosophie, même économique, à la racine, si on n'a pas acquis les bases de la logique moderne. Disons que là, on va avoir un souci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se heurter. Par exemple, aujourd'hui, le monde est fortement numérisé avec Internet. Et d'ailleurs, vous en avez parlé dans le débat de ça. On va y revenir peut-être après la pause, hein, parce que je vois qu'on arrive là. On va parler de ça après la pause, si vous voulez bien, mes auditeurs, de ce débat qui est quand même très intéressant. Et puis après, on a beaucoup de choses à voir encore avec Carole. Donc, on va se quitter une petite pause. On revient tout de suite après. Tu sais comment sont les pauses sur Monnaie Libre, Carole ?
Musicale.
Ouais.
Oui.
Et la musique, elle est comment ?
Alors, moi, j'aime bien. En général, c'est assez calme et reposant, il me semble.
Ouais, mais c'est la musique libre, surtout.
Ah oui, bien sûr, oui.
Voilà, donc à tout de suite avec Carole Fabre, de retour dans Monnaie Libre, après cette première pause musicale. Nous voici de retour dans ce Monnaie Libre passionnant hein, avec Carole Fabre, dont l'actualité donc a été extrêmement riche ces derniers mois. Hein. On a vu dans la première partie, Capitole du Libre, une vidéo. Il y aura le lien hein, sur le podcast pour aller voir cette vidéo Monnaie Libre qu'a faite Carole. Sa participation au Freedom Money Meeting, les rencontres des monnaies libres, OpenUDC, YouCoin, c'est-à-dire les monnaies à dividendes universels en pair à pair sur les réseaux. Qui sont en plein développement et qui commencent déjà à fonctionner d'ailleurs, hein, on en parlera, on va revenir dessus. On fait une émission dans la deuxième partie dans la quatrième partie, si je suis la deuxième partie de la deuxième partie, ça fera la quatrième. On va continuer à parler de ce débat très intéressant, hein, parce que c'est quand même des fondements et des discussions. Donc Carole, tu as eu avec Bernard Friot, alors on disait juste avant la pause, hein, que lors de ce débat, il y a eu un échange à un moment donné, je pense que tu t'en rappelles, hein, où il a bondi sur cette histoire de monnaie sur Internet, il avait l'air d'avoir des soucis avec ça.
Oui, il avait très peur, parce que, ben moi, bien sûr, je l'ai parlé, donc, en résumant, là, de l'esprit, la culture du logiciel libre, etc., en lui disant que c'était pas négligeable, parce que lui, tout ce qui était... Alors là, la salle aussi a beaucoup de mal à comprendre, beaucoup de gens disent « virtuel » encore, comme si c'était quelque chose qui n'existe pas, comme si Internet... j'ai pas mal de personnes encore, c'est quelque chose qui est... comme si c'était pas vrai, voilà. Alors qu'on... quand on est sur un réseau ou un réseau social sur Internet, c'est vrai, on est bien en contact avec des gens, quoi. Mais bon, pour plein de gens, c'est virtuel. Alors la monnaie numérique ou virtuelle, voilà. Donc chaque fois, j'essaye de dire non, c'est pas une monnaie virtuelle, c'est une monnaie à la limite numérique ou digitale ou crypto-monnaie, mais c'est pas virtuel, ça existe bel et bien, quoi. Et que la monnaie euro, elle est déjà numérique aussi, hein. Voilà, ça aussi, on est mal à...
Oui.
Mal à percuter.
Mais oui, c'est ça.
L'euro
oui.
Est numérique, hein, c'est des.
Ben, c'est des nombres déjà, tout simplement.
Mais oui. Et déjà en plus, oui.
C'est des nombres, c'est-à-dire que le 100 qui est marqué sur le billet de 100 euros, ouais. C'est juste un nombre parce que le billet vaut pas 100 à fabriquer. Il vaut beaucoup moins à fabriquer que 100 en fait. Voilà, donc c'est une problématique qui est différente. Hein. Mais voilà, oui, ils ont du mal alors qu'en fait ils vivent déjà dans un monde de nombres depuis leur naissance en fait, depuis leur naissance. Depuis que la monnaie existe, on joue avec des nombres en fait, ouais. Donc avec de l'immatériel, c'est de l'immatériel.
Oui, c'est les pièces et les monnaies là qu'on fait oublier aux gens qu'il y avait un système de mesure et de nombres derrière, quoi.
Ouais, qu'il y avait une masse de nombres et que cette masse de nombres influait sur la mesure des valeurs, etc., etc. Oui, bien sûr.
Donc une confusion vraiment entre le système de mesure et la monnaie en elle-même, quoi.
Ouais.
Voilà, où le réseau et le flux, si on peut dire, enfin, voilà. Et donc là, j'ai vu qu'on avait un niveau d'incompréhension avec Bernard Friot sur ce sujet-là. Je voyais bien que c'était compliqué. Alors lui, par contre, tout à fait, parce que moi, je lui opposais donc quand même tout ce qui avait été fait d'incroyable avec les logiciels libres, etc. Et lui disait, oui, mais alors tout est repris par les gros du marché, les Bill Gates, les Google, les Amazon, etc. Et comme si j'étais pas au courant, je dis, mais oui, bien sûr qu'aussi, il y a ce côté-là dans les réseaux Internet, etc. Enfin, il y a des... Voilà,
alors, moi, je voudrais...
propriétaire et du libre, quoi.
Ouais, ouais, mais alors, je voudrais dire à ça, pour les auditeurs qui réfléchiraient à cette question, c'est pas tout à fait faux ce qu'il dit là. Simplement, ce qu'il voit, c'est le constat actuel, mais d'où ils viennent, Google et Amazon, par exemple, ils n'existaient pas il y a 15 ans. Donc il faut comprendre ce premier point déjà. Donc les gros, c'est repris par les gros, mais ces gros, ils apparaissent comment? C'est ça que la TRM va mettre en évidence. Faut pas oublier que ce soit des bots comme Google, Amazon, et particulièrement pour Amazon d'ailleurs, mais ça peut être vrai pour YouTube aussi, pour d'autres, ce sont des bots qui, pendant très longtemps, au démarrage, n'ont pas gagné de sous du tout. Donc comment les gens étaient payés? Parce qu'ils payaient beaucoup de gens en fait. Pour avancer et prendre de l'avance économique sur les autres gens, en fait. Hein, faut bien comprendre. Alors, on a le droit de pouvoir investir, c'est le but hein, de l'économie, c'est bien que les hommes investissent. Mais ils étaient payés, et ils n'étaient pas payés avec des nombres qui étaient différents des nombres que vous utilisez sur vos propres comptes en banque. Ils étaient payés pour ces boîtes-là, d'ailleurs, en dollars, tout simplement, hein, dans des nombres issus de la monnaie dollar. Bon, ils venaient d'où ces dollars? Ben oui, c'est ça le problème. Alors, on me dira, c'est des épargnants qui avaient de l'argent, qui ont décidé de l'investir. Oui, il y a sans doute une partie d'épargne, mais il n'y avait pas qu'une partie d'épargne. Il y a ce qu'on appelle l'effet de levier. Voilà, parce que si l'argent venait toujours d'une épargne préalable, alors la quantité de monnaie ne devrait jamais bouger. Or, la quantité de monnaie croît, et elle croît d'où ? Il y a bien des gens qui s'amusent à créer des nombres entre-temps. Voilà, donc tant qu'on n'a pas mis le doigt là-dessus, on ne comprend pas. Donc c'est gros, qu'il appelle gros entre guillemets. Moi, ce que je vois, c'est pas Google, Amazon. Je vois ceux qui ont les actions de Google et d'Amazon et qui ont pu créer ces actions au départ en injectant beaucoup d'argent, dont une grande part, ils ne l'avaient pas épargné avant. C'est-à-dire que là où les autres hommes sont censés devoir épargner pour avoir de la monnaie afin d'échanger ensuite, d'autres hommes, eux, ont le droit d'en créer plus que les autres. Voilà. Mais ce qui ne comprend pas, après, derrière, il faut aller plus loin. Parce que quand tu lui parles de crypto-monnaie sur Internet, de monnaie numérique sur Internet, ce qu'il ne voit pas, c'est que si tu changes d'unité monétaire, si tu changes de monnaie, que tu commences à exprimer tes prix dans cette monnaie, alors au départ, tu ne vas pas exprimer tous tes prix de toute ton activité économique dans cette nouvelle monnaie, mais tu peux en exprimer une petite part. Par exemple, 10% de ton activité, tu commences à la faire dans cette monnaie. Et tu l'as fait, tu exprimes tes prix dans cette monnaie, tu fais les transformations pour que cette monnaie exprime bien des prix. Au départ, ben, tu fixes un prix un peu comme ça, un peu aléatoire, voire tu fais une enchère, et puis comme ces nombres sont limités, parce que ce soit le Bitcoin, le Ucoin ou l'OpenUDC, ou quelle que soit la monnaie, de façon générale, la quantité monétaire utilisable est limitée. Après, les règles diffèrent, c'est selon que la monnaie est libre ou pas, mais peu importe. Donc, on propose un échange contre ces unités, et voilà, il y a des transferts d'unités qui se font contre des valeurs économiques. Bon, eh bien, si on utilise ces unités-là, on ne permet plus à d'autres gens de nous payer en quelque sorte, ou nous prendre nos qualifications, je peux parler comme Bernard Friot, en nous payant avec une monnaie qu'on n'accepte pas, tout simplement, parce qu'on n'en est pas coproducteur. De la même façon qu'aujourd'hui, par exemple, on peut comprendre qu'en France, on pourrait refuser de se faire payer, faut pas que je dise de bêtises, je vais trouver quelque chose d'assez frappant, je ne sais pas, en poil de kangourou, hein, parce qu'on ne sait pas trop la valeur que ça, on l'utilise pas, il n'y a pas de kangourou en France, on ne sait pas à quoi ça sert, peut-être que dans un endroit du monde, les poils de kangourou, ça vaut très cher, mais on ne sait pas, on n'est pas au courant. Et on s'en sert pas, voilà, donc on refuserait ça comme monnaie, enfin on dirait, bon, ou alors je veux bien tes poils de kangourou, mais j'essaie de voir si je peux avoir une contrepartie dans quelque chose que je peux mesurer. Et je ne peux mesurer que ce que je connais. Voilà.
Ah oui, bien sûr,
bah, pas, si j'ai pas
la conscience qui se crée maintenant.
Voilà, pour mesurer en mètre, il faut encore que je connaisse le mètre. Voilà, donc si j'utilise une autre unité monétaire, ben, et que je demande à être payé dans cette unité monétaire, forcément... le fait que l'avoir utilisé petit à petit, ça se fait pas forcément en un jour, mais petit à petit, en quelques temps, c'est toujours pareil, il faut penser de façon différenciée dans le temps, on finit par donner une valeur à cette monnaie et on va dire, ben non, mais moi je voudrais tant de cette unité monétaire. Voilà, et donc à partir de là, alors même si autrui veut nous payer dans autre chose, on regarde si l'échange de cette autre chose correspond bien aux unités monétaires qu'on veut. Voilà, et dans ce cas-là, le marché se conclut ou se conclut pas. Voilà, donc ce que je veux dire là, c'est que là où il va dénoncer, en fait, le fait d'adopter autre chose, condition que cette autre chose soit pensée correctement, eh bien, simplement, permet de dire, bon, j'ai même pas besoin d'aller me battre contre les fantômes, en fait. Voilà.
Oui, oui. De toute façon, moi, je pense qu'il a compris un petit peu le problème de la création monétaire actuelle, mais pas tout, puisque... Alors là, je ne l'ai pas repris sur ça, parce que chaque fois qu'il parlait, il allait quand même sur divers sujets, donc je notais le plus important, ce qui m'apparaissait le plus important. Mais là, il voit lui les créations monétaires pour les investissements. Mais après, les cotisations sociales, pour lui, c'est déjà une création monétaire, alors que c'est absolument pas ça, quoi. Mais voilà, il le voit comme ça. Donc j'ai bien vu qu'il mélangeait à ce niveau-là.
Oui, et puis alors il y a toujours pareil de savoir si on crée la monnaie pour l'investissement, mais moi j'ai envie de dire, et cette monnaie qui a été créée soi-disant pour l'investissement, quels sont les hommes qui en seront bénéficiaires, quels seront ceux qui n'en seront pas bénéficiaires, et quels seront ceux des hommes qui choisiront qui en sera bénéficiaire, qui n'en sera pas. Ça crée une asymétrie colossale sur une unité de mesure commune. Voilà. Alors le problème est qu'on peut avoir une asymétrie pour un certain nombre de choses, c'est-à-dire c'est normal qu'on décide chez soi, par exemple, de mieux ranger ses meubles comme on a envie de les ranger, mais concernant une unité de mesure commune, ça paraît difficilement concevable.
Ouais, ouais. Enfin, voilà, tu vois, pour ce débat, bon, j'ai essayé d'accepter quand même cette notion de liberté, parce que beaucoup de gens qui sont dans le réseau salarié, etc., voient le salaire à vie comme justement quelque chose de, qui libère, etc., quoi. Donc, alors après, je sais pas s'ils ont très bien perçu que justement, ben non, c'est pas libérateur, quoi. Voilà.
Oui, notamment, tu as cité dans cette conférence que les auditeurs pourront écouter en intégralité. C'est un peu long, hein, ça dure 2h30, mais on peut l'écouter en plusieurs fois. Mais c'est intéressant quand même, mais avec le recul, alors on peut en parler un peu aussi sur ce point-là. Tu l'as cité dans la conférence et on peut insister là-dessus. C'est que le problème du salaire à vie, c'est de dire chacun a un salaire déterminé. Donc qu'on échange ou pas dans la monnaie, c'est-à-dire qu'on fasse des échanges monétisés ou pas, ça ne change rien. On se demande à quoi sert la monnaie du coup, parce que si je suis comme tu disais le cas, hein, si on a deux brocanteurs ou deux comment on appelle ça
des petits commerçants artisans,
peu importe, voilà, il y a deux qui font la même chose, bon a priori, pourquoi l'un ça s'enquiquinerait à part avoir son enseigne à vendre ses prestations, puisque quoi qu'il arrive, il aura son salaire à vie identique à l'autre. Donc la monnaie perd... on voit pas trop quel est le rôle de la monnaie dans son idée, en fait. C'est-à-dire que normalement, la monnaie est là pour marquer un différentiel d'échange. C'est-à-dire, je donne quelque chose que j'ai plus, ça peut être mon temps, ça, bien sûr, c'est du temps. Une fois que j'ai passé mon temps de vie pendant un an à faire un truc, mais cette année de vie, je peux pas l'utiliser à autre chose. Hein. C'est-à-dire que chaque année, je me rapproche de la mort. Hein. Faut pas oublier que notre temps est limité, donc ça a de la valeur. Et ou si je fabrique tel objet que je m'en délaisse, etc., je reçois de la monnaie en échange, et l'autre, celui qui m'a donné la monnaie, ne l'a plus. Voilà, et parce qu'il y a ce différentiel, ça me permet en retour, directement ou indirectement, de pouvoir obtenir autre chose en échange. Voilà.
Ouais. Mais ça a beaucoup interpellé, là, cet exemple du petit commerce artisan, que ce soit le boulanger ou le brocanteur. Dans la salle, tout ça, les gens sont revenus dessus en disant « Mais oui, votre truc, ça marche pour les grosses boîtes, mais alors pour le petit, comment on fait ?» Voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'il
y avait quelque chose qui clochait là. Ouais.
Oui, l'homme individu est toujours absent des réflexions globales, hein, en fait.
Hein. Total, oui.
Voilà, c'est-à-dire l'homme n'existe pas. Il y a des entités dont on se demande d'où elles sortent, parce que si elles ne sont pas produites dans l'esprit d'un homme, je ne sais pas trop d'où elles viennent dans ce cas-là. Oui, non, mais c'est le problème, c'est qu'à la fois, c'est des hommes qui pensent, et dans leur pensée, l'homme n'existe pas. Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'il est totalement absent, on ne sait pas où il est. Il y a des entreprises, il y a des choses comme ça, des concepts, dont je me demande quelle est la nature d'ailleurs. Moi, ce que je vois, c'est des hommes. Après, que des hommes qui s'associent ou s'associent pas, bon, ça, c'est leur problème. Il y en a qui veulent rester autonomes.
Ouais.
Et normalement, une unité de mesure commune devrait les concerner tous, et pas quelques-uns. C'est-à-dire, à un moment donné, moi, je ne comprends pas comment, à la fin, on peut avoir des hommes qui, malgré toutes les grandes discussions globales, sont dans la rue à attendre qu'on s'occupe d'eux, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même un problème dans la mécanique de pensée si c'est pour aboutir à ce type de résultat.
Mmh.
Alors bon.
Ah oui, il faut relire Étienne Delaboe ici, de la servitude volontaire.
Oui. Mais enfin, en tout cas, le débat était intéressant, si bien qu'il ait eu lieu. Alors à noter qu'il y a 3 ans, je crois, j'ai proposé 2 ou 3 fois à Bernard Friot d'intervenir sur Monnaie Libre pour discuter avec lui, et qu'il a refusé les 3 fois. Bon, je le rappelle quand même.
Bah oui.
Il a échangé des mails, et à chaque fois, il m'a gentiment décommandé. Voilà, bon, bref. Donc,
okay. Ben,
c'est pas grave, c'est toi qui es allé discuter avec lui, c'est très bien. Donc, alors, on finit sur ce débat. Alors, on va maintenant... on va revenir un peu sur la corbeille.
Oui.
Puisque, donc, on avait parlé un peu de cette expérience FMM4. Et alors, depuis, tu as organisé des jeux à la corbeille. Beaucoup, en fait. T'en as fait plusieurs, hein.
Alors, on en a refait donc à Toulouse le dimanche 18 janvier.
Oui.
Voilà, on était une petite douzaine. Et on a testé le troc le matin, la monnaie dette et le dividende universel dans la même journée. On a fait ça de 10h30 à 18-19h. Voilà. Alors, c'était très bien. Donc là, je me suis entraînée. C'est la première fois que je faisais vraiment animatrice pour bien... il faut quand même bien jouer son rôle, hein. Voilà, bien expliquer les règles, etc. Et c'est très bien passé. Donc on a vu que le troc, au bout du second tour, tout le monde était bloqué. Donc après, ils sont partis, don contre don, ils sont amusés. Des choses qui ne pourraient exister qu'en tout petit comité, quoi, à l'échelle d'un village. Ce qu'on ne pourrait pas faire à grande échelle. Mais alors bon, ça fonctionnait plus ou moins. Après, la monnaie dette, des exclus, la banque qui s'enrichit, énormément. Et puis après, le dividende universel, où il y a eu beaucoup d'échanges, mais dans une convivialité et avec toujours les décibels sonores qui baissent énormément, quoi. Ça, c'est, je trouve toujours ça étonnant, quoi. Pendant la Money Dance, il y a une excitation qui monte, et même la voix des gens. Et dans la division universelle, oups, tout le monde se calme et beaucoup, beaucoup plus serein, quoi. Voilà.
D'accord. Et qui étaient les joueurs?
Ah bon, c'était donc des personnes de Toulouse qui s'intéressent à la Monnaie. On avait déjà fait une petite réunion en décembre où on avait programmé ce jeu de la corbeille. J'ai fait une réunion où justement on avait fait un compte rendu de ce qui était passé à Paris avec toi et voir comment aussi, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur Toulouse au niveau de la Monnaie. Là, on a un petit groupe de 9-10 personnes, quoi. Voilà.
D'accord. Et tu as rejoué après, je crois, à Die, c'est ça?
À Die. Alors là, j'en reviens, je suis rentré lundi soir, j'étais plusieurs jours à Die.
C'est où ça?
Rencontre écologie au quotidien. Alors, je connaissais pas, mais c'est des rencontres assez connues, ça fait 13 ans qu'ils font ça.
Ouais, mais c'est où?
Dans la Drôme.
Oui, je sais pas où c'est la Drôme, moi.
Alors, Die, au-dessous de Valence.
D'accord.
Au sud de Lyon.
D'accord.
Dans le Vercors, au pied du Vercors.
D'accord. Il y avait nos développeurs, alors, peut-être, qui étaient là, non? Non.
Ah, je sais pas.
Parce qu'ils sont de Valence, je crois, ceux qui étaient venus. Bon.
Ah.
Ouais.
Je les ai pas vus.
D'accord. Ah, ok. Là, bon, mais pas. D'accord. Non, mais très bien. Et donc, alors, comment ça s'est passé?
Alors donc là, moi, je suis intervenue en débat après le film En revenu pour la vie, là, de Michael Le Sos, et la conférence gesticulée de Alexis Lecointe, qui sont aussi deux Toulousains, qui donc ont fait ces créations artistiques, quoi. Un le film et une conférence gesticulée. Et j'ai animé deux ateliers de la corbeille. Alors, il y avait un monde fou. Là, j'étais toute seule. Donc, j'avais dit 15 personnes maxi. Donc, il y a des gens qui sont restés en spectateur, parce qu'il y avait plus de 25-30 personnes. Donc, ils sont restés un peu en spectateur. J'ai limité à 15. On a été à 17 à jouer. Et j'ai limité aussi le nombre de tours pour pouvoir faire les deux. Parce que la première matinée où j'ai fait ça, j'ai beaucoup expliqué la Money Dance que personne connaissait. Un grand temps d'explication. Les gens étaient curieux, m'ont posé plein de questions. Du coup, on a pu jouer que la Money Dance seulement, quoi. Donc c'est pour ça qu'au second atelier le lendemain, j'ai fait sur 50 ans, on a dit, allez, 5 tours, et on a pu faire le diviseur universel. Alors évidemment, c'est moins parlant après dans les résultats, mais quand même, j'ai trouvé ça, déjà, c'était ce que j'ai trouvé étonnant, donc c'était plutôt un milieu de jeunes écolos décroissants. Et donc dans la Money Dance, ils n'ont pas voulu jouer le jeu à fond, ils ne voulaient pas emprunter. Ils avaient envie de troquer, ils disaient on peut pas troquer, ils avaient vraiment envie de s'exclure des règles, en fait. Voilà. Ils ont quand même joué le jeu, donc ils étaient obligés de venir emprunter, sinon plus personne pouvait jouer, donc ils l'ont fait. Bon, il y a eu deux exclus, voilà. Ils ont créé peu de valeur finalement. Et la banque s'est enrichie, mais peu. Beaucoup, toujours plus que, hein, mais pas autant que quand tout le monde joue à fond le jeu de la Money Dance.
Donc moins on s'endette, moins la banque s'enrichit, en fait.
Eh oui, ça, c'était très flagrant. Alors j'aurais dit, bon, allez, on va quand même garder le petit crédit agricole, a dit. Bon, on continue quand même à gagner de l'argent, un peu, mais bon, à la campagne, c'est pas pareil, quoi. Les gens à la campagne s'organisent entre eux, voilà. Eh bien oui, ils sont habitués à l'assèchement monétaire, hein, dans les campagnes. Donc
oui.
Les gens ont une autre façon de s'organiser.
Oui, oui.
Et ils jouent moins le jeu, finalement, de cette monnaie-là. Mais bon, il y avait quand même un niveau sonore assez important, des excitations, etc. Et quand on a fait le dividende universel, là, oups, des décibels qui descendent, tout le monde beaucoup plus à l'aise. Et là, ils ont fait beaucoup plus d'échanges que dans la Money Dance.
Oui, d'accord.
Ça, c'était marrant. Alors que normalement, c'est à peu près kiff-kiff, hein, dans les autres jeux.
Oui.
Et là, ils en ont fait beaucoup plus.
Donc là,
que tout paraissait beaucoup plus calme.
Donc ça semble encore plus adapté, disons, pour leurs habitudes, en fait.
Voilà.
Et ils ont...
Alors je me dis que le prochain coup, je vais essayer de faire. Ce serait bien de le faire dans une école de commerce, tu vois.
Oui.
Pour voir. Voilà.
Ah oui, bien sûr, oui, ça serait...
Ouais, je vais proposer ce jeu dans une école de commerce. Je vais voir si je peux, sur Toulouse.
Ah ben oui, ça serait extrêmement, extrêmement formateur, oui, tout à fait.
Ouais, ouais.
Et oui, très intéressant, parce que... Ouais. Donc, bah, très bien. Alors, bon, on va continuer, et pour finir, on va attaquer le dessert, hein, peut-être le plus intéressant, peut-être même pour nos auditeurs, hein. C'est bien sûr ta participation aussi, parce que t'arrêtes pas en ce moment, donc t'es vraiment à bloc. tu es aussi, ça y est, tu t'es inscrite aussi à la Monnaie YouCoin Metabrozouf. Hein.
Ah oui.
Alors voilà, donc Yukon est opérationnel, donc ça tu l'avais vu au FMM4, hein, tu avais vu quelques démonstrations rapides.
Ouais.
Mais là, ça y est, tu as pu en plus maintenant rentrer. Alors bon, je dis pour les auditeurs, donc Yukon, c'est pour rappeler un peu, hein, c'est le projet lancé par Cegic, le développeur, qui maintenant est rejoint par bien d'autres développeurs. On peut citer, il y a Kimamila, il y a Moule, il y a Inso, il y a Vite007, j'en oublie, voilà, bon bref, voilà, il y en a d'autres, excusez-moi si j'oublie, mais de toute façon, puis en plus il y en a, donc on ne connaît pas, il y a Stéphane Klein aussi qui a participé à OpenUDC au départ, on ne peut pas oublier Jibar, parce que même si il est un peu reparti dans la monnaie dette actuellement, un peu contraint et forcé, mais c'est quand même lui qui a lancé OpenUDC, donc les concepts fondateurs. Et voilà, bon, et Yukon maintenant est opérationnel, c'est-à-dire on a un système logiciel P2P de génération de monnaie libre à dividende universel. Et donc tu as rejoint une des premières communautés, disons, alors là c'est une monnaie, disons, plutôt de test, hein, c'est pas vraiment une monnaie libre opérationnelle au sens strict, parce que le taux est fortement accéléré pour pouvoir tester, en fait, on teste chaque année, voire un jour, si vous voulez, hein, donc là ça va très très vite, hein, en fait, hein, c'est pas... Mais peu importe, ça permet de tester justement les transactions, tout un tas de choses. Voilà, et donc tu as rejoint cette communauté, alors qu'est-ce que tu peux en dire? Tu as testé un peu le logiciel?
Alors j'ai testé juste un soir, parce qu'après je partais justement à 10 dans la Drôme sans mon ordi, et donc là je ne me suis pas encore remise, mais oui, donc déjà, bon, c'est assez simple à installer, hein. Mais après il faut être reconnu par la communauté.
Oui. Hein.
Donc je suis allée dire que j'existais sur le forum, et bon, tout le monde, les gens qui me connaissent sont tout de suite bon, pour toi et Cédric et d'autres ont dit ok, donc j'ai été reconnu quand même assez vite dans la soirée même, voilà. Et j'ai pu, on m'a envoyé des métabrosouf et j'ai pu en envoyer un peu aussi.
D'accord.
Voilà, j'ai fait la première transaction. Voilà. Ouais. Alors avec quelques trucs qui fonctionnaient plus ou moins, enfin, mais bon, voilà, j'ai signalé ce qui s'était passé en tout cas sur le forum, voilà.
Voilà, donc c'est une façon de contribuer de façon active, hein, même si vous n'êtes pas développeur actif. Bon, les logiciels sont pas encore dans les versions tout à fait, disons, vraiment grand public, hein, mais pensez au début de l'informatique, hein, par exemple, regardez Mozilla Firefox aujourd'hui, par rapport à ce qu'il était il y a 15 ans, évidemment, c'est le jour et la nuit, c'est bien sûr.
Ouais.
Donc, voilà, il faut regarder, les logiciels se développent petit à petit grâce aux développeurs, et qui prennent le temps de bien analyser tout ça, de bien regarder, tout ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, beaucoup de vigilance. Mais ça ne peut pas se faire non plus sans des utilisateurs qui utilisent et qui font des remontées de bugs. Voilà. Ça permet aux développeurs de voir très vite ce qui ne marche pas. Parce que parfois aussi le développeur, il teste le logiciel à sa façon et il ne voit pas comment une autre personne...
Oui, utilisateur, oui.
Voilà, comment un utilisateur...
Après, ouais.
Voilà, exactement. Donc après, en fonction des retours, ça évolue. À savoir aussi qu'un client de monnaie P2P tel que Qtcoin, c'est un client graphique, c'est-à-dire l'interface graphique qui vous permet d'accéder au réseau Ucoin et à une monnaie libre telle que MetaBurzouf. Eh bien, un client graphique, c'est pas unique non plus. Voilà. C'est-à-dire que si c'est l'avantage du logiciel libre aussi, c'est un logiciel libre. Bah, s'il vous plaît pas et que vraiment vous voulez faire une interface différente, vous pouvez toujours le faire. Si vous êtes un développeur, vous pouvez. Si vous n'en êtes pas un, vous pouvez être un utilisateur, vous pouvez proposer des modifications ou recruter des développeurs qui feront ce que vous voulez. Voilà. Alors après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez vraiment, etc.
Voilà, oui, donc voilà, parce qu'on peut faire dans plusieurs monnaies. Donc là, c'est les MetaBurzouf.
Oui.
Alors, moi, j'aime bien justement avoir le dividende universel aussi,
ouais,
mentionné.
Oui.
Voilà, comme ça, c'est bien de voir les deux, là.
Oui, voilà, oui. Et puis, normalement, ouais, on peut choisir son unité. Hein. Alors, bon, voilà, pour l'instant, la version-là permet de le faire, mais de façon, je dirais, vraiment à l'arrache. Hein. Mais en fait, les versions suivantes permettront sans doute même de choisir carrément son unité d'utilisation unique. C'est-à-dire, on pourra choisir d'utiliser que le dividende comme unité, ou que le MetaBurzouf, ou que la monnaie qu'on veut, ou que même un autre type de référentiel d'affichage. Voilà, tout ça, ce n'est que référentiel. Voilà, donc on pourra changer de référentiel facilement, tout comme on prend le train ou on descend du train, si vous voulez. Ça sera aussi simple que ça.
Alors, il y a Olivier Aubert aussi qui est venu, hein, qui a un compte, et il a dit, là, sur les réseaux, là, sur Framasphère, je crois bien, il a dit, voilà, j'ai l'impression de vivre un moment historique.
Oui, bah oui, voilà. Oui, 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 bah oui, oui, c'est historique. Oui, c'est,
bah C'est exactement ça.
Oui, oui, ben, je crois que c'est la, c'est, oui, c'est, on peut dire que c'est la première fois que des êtres humains se connectent à un réseau monétaire à dividende universel, P2P. Voilà. Donc, voilà. Je crois dans l'histoire de l'homme, c'est une date. Alors bon, ça, alors je sais pas, le monde est vaste, hein, ça a peut-être eu lieu hein, déjà, ouais. Mais de ce qu'on a pu voir sur le net, même dans d'autres langues, pour l'instant, ça n'existe pas. Hein. Je crois que on a même des Anglais qui commencent à venir sur le forum et qui nous ont dit ça nous intéresse parce que c'est le seul projet logiciel de monnaie à dividende ou à basic income. Hein. Pour eux, ils disent basic income. Hein.
Voilà. Voilà. Alors là, j'essaie de Enfin, je vois que ça s'active beaucoup au niveau des crypto-monnaies et du revenu de base. Alors, pas en dividende universel, c'est pour ça que c'est bien que ce soit connu au niveau, enfin, déjà anglo-saxon, quoi, parce que, ou enfin, pour les gens qui parlent anglais, je sais pas si tu as entendu parler d'une monnaie à revenu de base en Finlande.
Oui, mais c'est pas clair, c'est-à-dire que
c'est. Ah non, c'est pas clair. C'est pas... Enfin, ils y pensent, c'est-à-dire que c'est un peu nouveau qu'il y ait des crypto-monnaies qui se créent avec l'idée du revenu de base, mais c'est pas du tout du dividende universel. Hein.
Mais non, mais non, mais
voilà,
c'est.
Donc ça va être soit par solidarité, donc des gens vont redonner. Bon, en fait, ça pourrait être comme un financement, quoi.
Voilà, c'est.
Je le vois encore comme ça, quoi.
C'est toujours une béquille au lieu d'être la base. Oui.
Et voilà, la béquille. Ouais. Mais ça fait son chemin, donc je pense que c'est des personnes qui sont derrière ces projets qui sont à même de comprendre très rapidement le dividende universel.
Oui, mais de l'autre côté, voilà. la TRM commence à peine à être traduite. Hein. Il y a deux, trois personnes qui se sont mises à la traduction. En anglais, ils ont senti que c'était nécessaire. Ça commence à se faire un peu. Bon, ça viendra peut-être par ça. Moi, j'ai l'impression quand même, j'ai le sentiment. Hein, bon, il y a aussi mon expérience de développeur qui passe par là aussi en même temps, et d'autres expériences qui me permettent d'aboutir à cette conclusion. Mais j'ai quand même le sentiment, y compris quand on a commencé à parler du projet logiciel, il y a très très peu de développeurs qui viennent sur le projet. Il y en a de plus en plus, donc c'est bien, mais ça reste à quelques dizaines. Hein. C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup, mais c'est encore loin de ce qu'on a sur des projets logiciels plus grands. Bon, c'est normal, hein, c'est le début. Mais on ne vient à comprendre ou à s'intéresser à développer ça que si on a compris le fond. Parce que si on est bloqué par le fait que oui, mais alors on crée des unités monétaires, mais alors si on n'arrête pas d'en créer, etc., on n'a même pas pensé à la base théorique, on n'a même pas pensé au concept, on n'a même pas abouti à la conclusion qu'en fait non, on ne crée pas de monnaie, c'est une pure illusion, et pourtant on en crée, parce qu'on ne sait pas changer de référentiel, etc. Voilà, bref, si on n'arrive pas à la conclusion, on passe pas à l'action. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas qu'une question de possibilité technique. Si on n'y croit pas, on le fait pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait des logiciels hyper importants à faire, mais personne ne les fait parce que personne n'a compris la nécessité de les faire. Voilà. Ça peut être vrai pour la monnaie, ça peut être vrai pour d'autres choses. Voilà. Donc il faut d'abord peut-être travailler intellectuellement le sujet vraiment en profondeur, être convaincu que c'est non seulement faisable, mais que ça pose pas de problème, et au contraire, ça apporte des solutions. Et c'est que quand on est arrivé à ça, qu'on se dit, ben maintenant, faut y aller. Parce que, voilà, sinon c'est difficile. Voilà, sinon c'est difficile, et on reste... Alors, c'est le même problème, d'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on a pour arriver à cette conclusion, c'est de rester bloqué à la critique du système monétaire dominant.
Oui,
on reste bloqué là et on croit qu'on peut le changer alors qu'en fait c'est en pratique quasiment impossible parce que l'inertie est énorme. C'est alors le nombre de gens qui l'utilisent et qui réfléchissent pas que du tout de façon relative est tellement colossal que oui, c'est possible, mais en 300 ou 400 ans. Voilà. Donc alors qu'une monnaie libre est possible tout de suite en fait. Mais ça, je le dis depuis par exemple depuis 2010, donc ça fait 5 ans. Mais quand on voit que... Ben oui, et donc quand on voit le relatif, disons la relative faible quantité de gens qui ont compris ça et qui se lancent là-dessus, ben c'est déjà beaucoup plus qu'au début, puisqu'au début c'était zéro. En quelque sorte. Même Yolande Bresson, qui avait compris, comprenait pas qu'on puisse gérer une monnaie, en fait. Et il restait bloqué, par exemple, sur l'idée de l'euro-franc et tout ça, mais et il a compris sur la fin, en fait. La dernière émission qu'on a faite, avant qu'il nous quitte, sur Monnaie Libre, il commençait à se poser des questions, il voulait rencontrer les développeurs.
Oui.
Voilà, donc, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, donc il faut vraiment passer ce cap, quoi. On peut créer notre propre monnaie, voilà. D'ailleurs, c'est la condition même de votre souveraineté individuelle. Si vous n'êtes pas coproducteur de votre monnaie, ben, vous êtes soumis à ceux qui la contrôlent. Voilà, point, terminé. Voilà. Et comme dirait Étienne Chouard, si on n'écrit pas nous-mêmes notre constitution, ben on est coincé.
Et tu vois, moi je dis, enfin, je le vois au niveau philosophique, parce que, bon, tu sais bien, moi je suis pas spécialement, justement, je développe pas, je connais juste un peu le code comme ça, mais je développe pas. Je suis pas spécialement non plus du tout dans les maths, bon, ça, des choses comme ça, qui sont des fois dans les logiques. Mais ta TRM, moi ça va parler tout de suite, tu vois, je sais pas comment expliquer. Je pense que ça peut aussi frapper des gens dans une logique philosophique, même si on n'a pas la logique des maths. J'ai réfléchi, tu vois, pour écrire sur ces monnaies aussi, quelque chose qui soit peut-être plus accessible à certaines personnes qui seraient rebutées par le côté toujours pareil, économique, mathématique, etc.
Oui.
Ou algorithmique, enfin tout ça. Et voilà, réussir à écrire quelque chose qui soit plus de l'ordre, dans l'ordre de la philosophie pour faire comprendre le système, quoi. Voilà.
Alors, dans cette idée-là, ce qu'a fait David Chazalviel, la TRM en couleur, c'est pas mal quand même, parce que...
Oui, oui.
Même s'il y a une partie informatique, c'est plutôt une partie d'utilisation, mais pas, pas une partie de... ça permet de voir un peu ce que ça peut donner, bon, qu'à un niveau global et tout, mais c'est quand même super bien, c'est quand même vachement bien. Et puis, il a donné du texte avec, c'est-à-dire qu'il a quand même... Il l'a expliqué, y compris du texte en anglais d'ailleurs, donc ça va dans cette démarche-là. Mais c'est sûr qu'on peut toujours essayer de trouver d'autres façons.
D'autres façons, et de l'inscrire dans une logique aussi peer-to-peer et de culture du livre.
Bien sûr.
Alors, Toulouse, tiens, à savoir, on devrait, j'ai une réunion la semaine prochaine, je crois, ouvrir un peer-to-peer labs, comme ils ont fait en Grèce. Il y a quelques mois déjà, et donc axé sur des recherches, expérimentations, alors que ce soit universitaire ou non, ou des expérimentations, etc. Et bon, à voir, on a un petit groupe sur Toulouse à penser à ça, et moi j'ai envie évidemment de partir à fond sur les monnaies peer-to-peer, quoi. Voilà.
Alors après, il faut, ce qu'il faut comprendre aussi après au-delà de ça, c'est que quand on choisit une monnaie, après il faut s'y tenir, parce que c'est pas les monnaies, parce qu'on peut pas gérer individuellement. Les monnaies, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, si on gère tous sa propre monnaie, on n'a pas de monnaie commune non plus.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut une communauté monétaire, ça ne veut pas dire qu'il faille que tout le monde adopte la monnaie, mais il faut un nombre de gens conséquents, donc ça peut être 1000 personnes, ça suffit. Hein.
Oui.
Mais il faut, sinon, il n'y a pas besoin de monnaie. Si vous êtes deux, vous n'avez pas besoin de monnaie, vous faites du troc.
Ouais.
Mais si vous êtes suffisamment nombreux, 10 000, 20 000, bon voilà, mais vous n'êtes pas obligé d'être 300 millions, c'est pas vrai. Mais je veux dire, après, il faut s'y tenir à une monnaie, parce que évidemment, si on utilise plusieurs monnaies, on affaiblit le pouvoir monétaire de chacune, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'évidemment, une monnaie pour avoir de la valeur doit être utilisée. Alors là, la preuve, les monnaies les plus utilisées au monde, malgré leurs défauts, font que c'est les plus fortes. Voilà. C'est-à-dire que évidemment, plus il y a d'hommes qui utilisent une monnaie, plus elle a de pouvoir économique. Ça, c'est pas étonnant, quoi. Je veux dire, voilà. On voit bien que 10 hommes qui travaillent de concert produisent plus et mieux que 10 hommes qui travaillent de façon isolée.
Ah bah oui.
Voilà, c'est ça. Donc ils travaillent de concert parce qu'ils utilisent la même monnaie. Mais justement, parce que les monnaies dominantes sont pas denses, elles ont pas le pouvoir que pourrait véritablement avoir une monnaie dense, quoi, une monnaie libre. Voilà. Bon, alors donc voilà, Ucoin, donc très bien. Donc c'est bien que tu aies aussi en plus fait la démarche d'aller jusqu'à commencer à utiliser le logiciel. Vous voyez, alors je pense que c'est assez important, parce que le moment où une monnaie libre, disons, de paramètres durables, c'est-à-dire avec un taux de croissance de l'ordre de 10% par an, va se lancer avec une communauté, disons, minimale suffisamment importante, c'est-à-dire quoi, quelques dizaines de personnes, ça suffit pour démarrer, en fait. Hein.
Oui.
Pour démarrer, après, il faudrait qu'il y en ait un peu plus, mais ça, on verra. Hein. De toute façon, on ne peut pas forcer les hommes à choisir une monnaie libre. Hein. Mais en tout cas, ce moment, il est là, ça y est. Il est là, il y a encore du travail, bien sûr. Le travail pour les logiciels ne va pas arrêter. Mais après, il y a toute une économie à bâtir autour. Il y a plein de choses à faire. Et voilà, et donc, comme dit l'autre, il y a des trains qui partent, et parfois il ne faut pas rater le départ. Voilà.
Oui, mais d'ailleurs, on avait eu des bonnes discussions aussi là à Paris, là, aux rencontres, sur comment une entreprise pouvait rentrer dans le système sans toucher son dividende, etc.
Oui.
Voilà. Tout ça, alors, tout ça, ça m'intéresse, hein, justement, de travailler sur tout ce côté-là aussi, voir comment. Pour pouvoir aller plus loin, pour que ça sorte, qu'on aille plus loin que Monnaie M, qui est juste de l'échange de particulier à particulier, bon coin, quoi.
Alors, mais sur Ucoin, c'est simple, on peut créer des comptes qui ne touchent pas de dividendes, en fait, tout simplement. Mmh. Voilà, c'est des comptes... Après, que c'est les gens qui gèrent ce compte qui font avec.
Ouais.
Mais c'est voilà, donc c'est pas c'est vraiment un détail technique en fait. C'est pas du tout une problématique. Après, en fait, après bon, disons qu'il y a la partie génération technique d'une monnaie, c'est très bien. Mais après, toute l'économie qu'il y a à construire dessus après derrière, c'est l'affaire des hommes. Hein. Et c'est encore quelque chose à créer autour. C'est par exemple des plateformes d'échange, c'est des plateformes de création, c'est des plateformes de financement ou d'investissement, mais dans la monnaie. Hein. Par exemple, imaginons une plateforme comme GitTip, justement, qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs, qui s'appelle Gratipay, je crois, un truc comme ça.
Ah oui, gratuit,
Mais qui est en euro-dollar aujourd'hui. Comme elle est en logiciel libre, on pourrait très bien la développer demain pour une monnaie, par exemple Metabrosouf. Bon, mais ça irait pas parce que Metabrosouf c'est pas fait pour ça, c'est vraiment une monnaie de test. Mais disons la monnaie libre qui aura le bon nom pourra utiliser sa propre plateforme de financement et se financer elle-même aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que le système monétaire pourrait demander, faire des appels de fonds pour créer les améliorations successives. Et voilà. Et chaque membre étant coproducteur de la monnaie pourrait en mettre une partie dessus, mais ça serait au choix de chacun. Voilà. Et donc, et après, plein de choses sont envisageables. Alors, ce que je dis toujours, hein, je vais juste rappeler quelque chose que j'ai déjà dit, mais qu'il faut affirmer. C'est-à-dire, adopter une monnaie libre, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber les monnaies existantes. Hein, voilà, on y va pas à pas, quoi. De la même façon qu'on se baigne pas en plongeant direct dans l'eau. Si elle est glacée, c'est pas une bonne idée.
Mais non,
Donc,
on garde un pied dans l'euro et un pied.
voilà, on y va doucement, on apprend à nager tranquillement et on va au large quand on est sûr de savoir bien nager. Hein, voilà, je veux dire, voilà, non, mais je veux dire, c'est important. Mais ça, c'est vrai de tout, hein, pour tout investissement, quoi qu'on fasse. Bon, y en a qui aiment prendre plus de risques que d'autres et tout, bon, c'est très bien, mais voilà, faut pas dire non plus, c'est pas un saut dans l'inconnu d'un coup, c'est une avancée dans l'inconnu, tranquillou, quoi. Voilà. Voilà, donc
Ça me va.
on peut y aller petit à petit, sans forcément voilà,
Bien sûr.
se jeter corps et âme. Voilà, y a...
Voilà. Là, c'est ça qui dérange certaines personnes qui voient ça trop, qui
Mais
veulent
bon,
tout casser, quoi.
Mais oui, souvent le problème
Voilà.
est là. C'est d'ailleurs quand on est bloqué qu'on voit ça. C'est qu'on dit c'est pas zéro qu'il faudrait, c'est un. Mais entre zéro et un, il y a une infinité de nombres. Voilà. Donc c'est comme Achille et la tortue. Hein, on court derrière la tortue, on finira par la dépasser, mais il faut un certain temps. Voilà. Alors il y en a qui croient qu'on la rattrape jamais la tortue. Mais si, on la rattrape. On court plus vite qu'elle, hein, vous inquiétez pas. Voilà, ben, c'est bien, merci Carole. Hein.
Oui, alors attends, je vais te parler quand même aussi de deux choses. Alors, ça, on a envie un petit groupe, alors avec Mathieu Bise, Gérard Fouché, Sybille, voire d'organiser un petit voyage au Forum social mondial à Tunis. Tu sais que j'avais été il y a 2 ans pour le revenu de base.
Ouais.
Et là, on aimerait bien animer avec des jeux de la corbeille et parler de monnaie, quoi.
Ouais, d'accord.
Et montrer que création monétaire. D'ailleurs, si tu as envie de venir, welcome.
D'accord.
C'est fin mars, du 24 au 28 mars.
Tu vas l'annoncer sur ton blog, ça? Ça va être annoncé où?
Oui.
Ouais, d'accord.
Voilà. Et donc, c'est 4 jours. Bon, c'est quand même intéressant parce qu'il y a ces 40 000 personnes du monde entier qui viennent chercher des alternatives.
Ouais.
Et ça ne parle jamais de monnaie là-dedans. Déjà, le revenu de base, très peu.
Oui.
Et là, voilà. Donc, je me disais, il y a quelque chose à faire là qui pourrait être bien. Si on est un petit groupe à partir, ça pourrait être sympa.
D'accord,
voilà.
Ça sera
donc,
un bon.
Bon, j'en reparlerai de toute façon.
Un bon endroit pour parler de YouCoin un peu. Voilà.
Et voilà.
Ben, merci.
Et attends, autre annonce, c'est
ouais.
Alternativa Toulouse qui aura lieu le 12 et 13 septembre.
Oui.
Donc, qui est le village des alternatives. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Il y en a eu à Bayonne, Bordeaux, il y en a un peu dans toutes les villes de France. On prend un grand quartier sur Toulouse.
Oui.
Il y a plusieurs villages. Alors, village écologie, village nature, village... Donc, nous, on est plusieurs à s'être mis sur un village économie et consommation avec une tente où on veut faire monnaie libre, etc. Où donc tout sera invité, Cédric, on en reparlera aussi. Mais là, retenez la date, c'est le 12 et 13 septembre, ça, c'est sûr.
D'accord.
Hein?
Alternatiba,
voilà.
Très bien.
Alternatiba Toulouse, voilà.
D'accord.
On a aussi une tente sur les monnaies, avec des animations, etc.
D'autres
voilà.
annonces? D'autres annonces de ta part?
Voilà.
D'accord, ok. Bon, bah alors c'est bon, maintenant ça y est. Merci, merci beaucoup Carole pour cette émission Monnaie Libre, donc spéciale, bah, dividende universel, YouCoin un peu aussi, revenu de base, on a parlé aussi salaire à vie, on a parlé, voilà, on a parlé voilà. Monnaie, on a parlé ce qui nous intéresse sur Monnaie Libre, c'est-à-dire comprendre le code des monnaies, et puis bah, vous dire à chacun, à tous, bah, c'est vous qui faites le choix, hein, c'est vous qui choisissez votre monnaie.
Oui.
Vous avez des possibilités, soit d'en produire de nouvelles, soit de rejoindre des projets existants, et choisissez, ben après, c'est vous qui voyez, voilà. Merci de nous avoir suivis sur ce Monnaie Libre spécial activités diverses de Carole Fabre, hein, cette année.
Et, merci Stéphane.
Merci à toi Carole, et je vous dis à bientôt sur Monnaie Libre, et je vous laisse avec notre générique No More Dreams. Au revoir. We'll be right back.